La première, podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jevenot.
Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum, ce sont les oranges qu'il faut presser, pas les hommes, dit-on au Maroc où Frédéric Ramelot a décidé de ralentir le rythme pour augmenter le plaisir. Originaire de Huy, cet entrepreneur, ancien responsable en vin pour une grande surface, n'est pas prêt de quitter le Maghreb qu'il a découvert un peu par hasard. Nous le suivrons dans quelques instants vers l'auberge Zarathoustra qu'il gère dans l'Atlas avec son âme sœur Zora. C'est dans le petit village d'Imlil au pied du Toubkal. Nous arderons aussi sur Loukaï Modem, autre sommet de l'Atlas où l'ULG a planté son télescope trappiste. Nous rencontrerons sur place l'astrophysicien Emmanuel Jehin et ses étudiants belgo-marocains. Puis avec vous, Anne Pollard, bonjour.
Bonjour.
Nous zoomerons sur Bruxelles.
Oui, tout à fait, l'association des jeunes marocains, mais vous allez l'entendre, ça ne parle pas que du Maroc.
D'accord, je me réjouis de découvrir ça avec nos auditeurs dans une petite demi-heure. D'ici là, cap sur le Maroc, c'est ce matin en radio sur la première et vous pourrez aussi voir notre émission cet après-midi à 14h10 sur la Une Télé.
Retrouvez tous les Belges du bout du monde sur notre carte des Belges.
Le Maroc, c'est le pays de l'évolution. Dans nos rues, là, tu trouves de moins en moins de corruption. Le Maroc, il y a les chlouhés, les rythmes. Tout le monde respecte, personne ne se terrifie. Le Maroc, il y a les petits taxis et il y a les grands. Pour pas te faire carnat, faut pas parler, c'est franc.
Bienvenue au Maroc, pour pas te faire carnat, faut parler, c'est franc. Pour pas te faire arnaquer, faut pas parler français. Le Belge, par contre, a plutôt bonne presse au Maroc. Notre voyage commence à Marrakech, dans la cité impériale. Nous avons rendez-vous au pied de la Koutoubia avec Frédéric, le premier Belge du bout du monde de ce road trip radiophonique.
Bonjour Adrien, comment vas-tu ?
Très bien, quand je suis à Marrakech, je vais toujours bien.
Très bien. Ben, on est ici au petit matin, à la place de Merfna. Comme tu vois, il n'y a pas encore beaucoup d'animation.
Mais le soleil est déjà là.
Elle s'anime surtout en soirée. C'est une métamorphose. Il y a des animations, du son. La place, elle est, je dirais, mystérieuse, parfois angoissante pour quelques personnes parce que tu as tellement une cacophonie de sons, de tous les sens sont en éveil. Tu as les restaurants, les bonnes odeurs de toute la cuisine marocaine et alors des animaux qui sortent, on va dire, de nulle part, des serpents, des chimpanzés, des petits singes. Enfin, c'est une animation qu'il faut voir le soir. Mais bon, nous sommes là le matin, on a le soleil, on est heureux.
Oui, oui, oui. Alors, c'est très sonore aussi avec les gnawa, avec voilà. Les chants. Le muezzin aussi. Oui. J'imagine qu'il te réveille tous les matins.
Tous les matins et même 5 fois par jour. Je ne dirais pas qu'il me réveille. Mais il y a aussi l'appel d'avant la prière pour dire qu'il va y avoir la prière. Donc, j'ai vraiment l'impression de l'entendre en mélodie toute la journée et toute la nuit. J'ai travaillé, bien sûr, comme tout le monde, toute ma vie. Et en tant que pensionné, je me suis dit, je vais sortir hors Europe. Et ma première idée, c'est de dire, je vais aller en Afrique. Et je vais commencer par le Maroc, puisque c'est à 2h30 à peine en avion. Et voilà, j'ai atterri au Maroc et j'ai été tout de suite subjugué par l'ambiance marocaine, la chaleur des gens, la convivialité, voilà. Je ne m'imaginais pas qu'il y avait des montagnes au Maroc et de la neige. D'ailleurs, même quand j'en parle à des amis, ils me disent de la neige au Maroc, c'est pas possible. Et naturellement, j'avais réservé dans une auberge dans le Haut Atlas et voilà, j'y suis resté.
Cette auberge est devenue la tienne.
Voilà, exactement.
Et celle de Zora, ton épouse, on en reparlera tout à l'heure. Que va-t-on faire dans les Belges du bout du monde aujourd'hui ? On ne va pas rester à 6 places Gemma.
Non, bien sûr, je vais t'emmener dans les montagnes. Je vais te montrer les étoiles aussi, puisque le soir, le ciel, les étoiles s'illuminent les unes après les autres. Et puis, elle t'invite à la Voie lactée, puisque nous sommes en haute montagne, il n'y a pas de lumière parasite, c'est merveilleux.
Emmanuel Jehin nous rejoindra, astrophysicien de l'Université de Liège. Il a monté ici un observatoire, le Trappiste.
Exactement, Trappiste-Nord. Oui, exactement. Et je pense que c'est le troisième au monde. Il y a eu des découvertes dates majeures qui se sont faites à Oukameden, je pense.
Le petit oiseau de Marrakech a tous les jours la laine fraîche. Quand il s'éveille réjoui, il fait pipi et il pépille.
Le petit oiseau de Marrakech a écouté avec Claude Nougaro, bien sûr, dès que le soleil se lève sur la Palmeraie, où nous rencontrons Zora Edira, la complice de Frédéric.
Sur la route, il y a le marabout Moula Ibrahim, qui est très connu. C'est pour le pèlerinage de toutes les jeunes filles célibataires. Donc, elles viennent visiter, elles viennent passer au marabout. Et puis, il y a une montagne au-dessus. Il faut y monter aussi et laisser sa petite culotte et descendre.
Donc les filles redescendent sans culotte.
Sans culotte.
Elles l'ont accroché à l'arbre.
Ils l'accrochent à l'arbre.
Ça ressemble un peu aux traditions chez nous. Il y a des arbres à clous,
voilà,
où on met aussi des vêtements.
On met des vêtements.
Là, ici, c'est pour espérer la fécondité.
Pas la fécondité, le mariage.
Le mariage, ah ouais.
Voilà,
ouais,
le mariage. Et puis, elles descendent. Mais bon, c'est vrai que la réalité, on va dire ça comme ça, la réalité, il y a beaucoup d'hommes qui viennent, ils se mettent à la terrasse des cafés dans ce petit village où il y a le marabout Moula Ibrahim, et ils regardent ces filles qui sont jolies, qui se font belles avec le henné sur les mains. Elles marchent pieds nus avec des chemisettes dans l'eau. Bien sûr, ça donne envie de se marier, comme on dit. Et puis, c'est attirant, quoi. Et souvent, elles se marient. Et souvent, le hasard fait qu'ils se marient. Et puis, voilà. Mais on dit que c'est la baraka de Moula Ibrahim.
La baraka, c'est la chance.
La chance. Voilà. Le porte-bonheur pour se marier. Voilà. Moi, je n'y suis jamais venue. Je n'ai jamais fait ça.
Par contre, tu as un petit peu assuré le service après-vente parce que tu as pratiqué des accouchements ici dans les montagnes.
Ici, dans la montagne, oui. Pas un peu plus loin, vers Asni, oui. Je faisais partie de la première promotion de femmes accoucheuses en montagne. Parce qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile à l'époque. Et donc, les femmes n'aimaient pas se montrer aux hommes. Donc, il fallait que ce soit les femmes qui accouchent les femmes. Donc, voilà.
Et tu as aussi été une des premières femmes à escalader le Toubkal.
Oui.
Première femme marocaine au sommet.
Oui. Ça, parce que j'étais avec mon premier mari. Donc, j'étais jeune, sportive, amoureuse. Et donc, ça, c'est des ingrédients qu'il faut voler, quoi. Et je l'ai suivi parce qu'il était un montagnard, il aimait bien marcher. Je suis montée. Et donc, malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas assez de vêtements adéquats pour pouvoir faire le Toubkal. C'était un mois d'octobre, enneigé, mais on est monté quand même. Je l'ai fait quand même. Et il y a un livre d'or au refuge là-bas. Et on m'a demandé de marquer ma première impression. J'ai réfléchi, j'ai marqué plus jamais. Parce que, je tiens ma parole, je n'y suis jamais retournée. Parce que c'était très dur, pas assez de bons vêtements parce que j'ai eu très froid, et des chaussures que j'ai prises en location au village avec des semelles en bois. Alors tu imagines, moi, à 17 ans, un petit oiseau, ça a été dur.
C'était à la fin du siècle dernier, et tu l'as fait, la première marocaine au sommet du Toubkal, c'est
toi. Oui, dans les années fin 77.
Oh là là, bravo, bravo. Ouais. Et là, tu travailles au pied du Toubkal maintenant.
Ah, maintenant, ça y est, mais je suis en pension maintenant. Mais c'est vrai que j'ai donné beaucoup. J'ai mis beaucoup au monde des petits-enfants. Il doit avoir 40 ans maintenant. Hein. L'aîné de mes petits-enfants, il doit avoir 40 ans.
Sacrée personnalité, Zora, nous la retrouverons tout à l'heure avec une de ses patientes dans un petit village de l'Atlas. Mais dans l'immédiat, je vous propose de faire la connaissance de son fils aîné qui nous attend sur la terrasse de leur auberge, le Zarathoustra, à Imlil.
Jean-Habib Fouillou, j'ai grandi ici à Marrakech et à Imlil. Donc j'ai fait mes études à Marrakech et je passais mes vacances ici avec mon père qui, lui, s'occupait de l'auberge. Donc c'est lui qui a construit l'auberge. Et c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu l'accompagnateur montagne. On met des gens en montagne, quoi. Voilà.
Tu étais élevé à l'école de la nature ?
C'est ça. J'ai grandi ici. J'adorais courir en montagne, aller pêcher de la truite, aller découvrir un petit peu les minéraux, les choses comme ça. Donc, c'est un milieu très intéressant. Ouais.
Dans lequel tu peux travailler aujourd'hui ? C'est quoi ton métier, ton job ?
Donc là, pour l'instant, je fais surtout les saisons en restauration en France, dans les Hautes-Alpes. Et j'organise du trekking, donc en intersaison. L'automne et le printemps, ici dans l'Atlas, et un peu dans le désert aussi. Ouais.
Tu as besoin de ce pied dans les deux pays, sur les deux continents ?
Oui, je m'y sens mieux. Je me sens mieux en ayant un pied dans chaque continent, exact. Ouais. Il y a des choses qu'on ne trouve pas en France et vice-versa, des choses qu'on ne trouve pas au Maroc. Donc c'est bien d'être un peu entre les deux une partie de l'année.
Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu reviens ici, à Imlil, dans le foyer familial, dans l'auberge créée par ton papa ?
Eh bien, toute ma famille est ici au Maroc, on va dire. Tous mes amis, parce que j'ai grandi ici, donc tous mes amis d'enfance. Et puis je retrouve un petit peu mes origines, mes racines et tout ce que j'aime.
Alors il faut que tu nous donnes tes coups de cœur. Quand on est à Imlil, qu'on a quelques jours devant soi, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Donc il y a le Toubkal, bien sûr. C'est le point culminant, c'est un peu le trophée de la région. Donc la plupart des gens viennent faire le Toubkal. Donc il y a une journée d'approche, le premier jour, 1400 mètres de dénivelé positif, 5 heures de marche jusqu'au refuge, qui est à 3200 mètres, ici on est à 1800. Et deuxième jour, donc très tôt le matin, on part pour 3 heures d'ascension, on arrive au lever de soleil au sommet, on passe un petit quart d'heure pour prendre des photos, et puis on redescend généralement jusqu'à Imlil. Petite pause déjeuner en route à Sidi Chamarouche.
Sacré trip, je peux vous dire, mené par Habib, avec aussi Zora, qui n'y retournera pas, et Frédéric, qui y va souvent. C'est une tribu belgo-marocaine à découvrir aussi dans l'article « Thé à la menthe et trappiste du Maroc sur la piste », mise en ligne par Edith Vallée sur lapremière.be. Notre trek dans l'Atlas continue avec Ridane, qui revisite le poème de Joachim du Bellay, « Heureux qui comme Ulysse ».
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison ? Ben aujourd'hui, dimanche 28 novembre, au cœur de l'automne, à 14h10 sur la Une, vous verrez ce petit village d'Ouanescra perdu dans le Haut Atlas. C'est là que nous allons retrouver dans une poignée de secondes Zora, infirmière accoucheuse en montagne.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
On est au village Ouanescra. Voilà, c'est un village qui est encaqué, en plein milieu dans l'Ouette. Malheureusement, il y a beaucoup de maisons qui sont en ruine à cause des neiges. Et il reste 5 foyers et le reste s'est monté en haut parce qu'ils ne pouvaient plus rester. C'est humide, c'est très froid. Et puis les personnes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas terrain au-dessus, sont restées en bas.
On l'entend, c'est un village qui vit encore. Il y a les enfants,
il y a un
petit élevage autour. Mmh. On voit aussi des vergers, des noyers, des cerisiers. C'est très, très vert.
C'est vrai.
Malgré la rudesse du climat, il y a 8 familles qui résistent ici. 8 maisons sont encore habitées, dont la maison de Fatima.
Il y a qu'à Fatim. Il y a même quand même des gens qui ont été dans le village de Ouanescra. Ils vivent avec les noyers, les vaches bien sûr. Et puis comme je dis toujours, la nature donne du bonheur. Même si on est pauvre, même si on n'a rien, quand on est à côté de l'eau, des arbres, le bruit, c'est des énergies positives, ça donne que du bonheur. Alhamdoulilah. Elle est contente, elle dit que ça va. Du moment que ses enfants sont en bonne santé, c'est ce qui est important pour elle.
Alors, tu es infirmière, tu as prodigué beaucoup de soins dans les villages, tu as travaillé comme accoucheuse aussi.
Oui, c'est une histoire de femme. Elle vient accoucher toute seule, sans mari. Le mari part au travail, elle la laisse dans sa douleur, elle vient toute seule. Et le plus beau temps de tout ça, c'est quand une fois que la femme a accouché, elle prend son bébé dans les bras, elle commence par une chose importante, mettre du souak. C'est une sorte de rouge à lèvres naturel, du kohl. Du noir dans les yeux, un petit peu sur les sourcils, et ils se font belles. Et tout ça, je me posais la question, je me disais pourquoi. Bien sûr, ce n'est pas une maladie, un accouchement, c'est quelque chose de naturel. Et bien, pour montrer au mari qu'elle est prête à recommencer. Et elles sont faites pour enfanter, pour donner la vie. Elles sont heureuses, elles sont contentes. Et puis, elles allaitent, donc il n'y avait pas d'histoire de biberon. Elles allaitent elles-mêmes jusqu'à l'âge de 2 ans. Et je vais raconter encore une chose qui me faisait rire, parce qu'elles avaient toujours des boucles d'oreilles. Et ces boucles d'oreilles, elles avaient l'oreille qui était percée, mais gros, ça tombait. Et parfois, il est coupé, même en deux. Et par la suite, j'ai appris, je l'ai vu, quand elles allaitent, normalement pendant les 2 années, le bébé, pendant l'allaitement, pendant qu'il prend le sein, il joue avec la boucle d'oreille, il tire dessus. Et alors, on a réussi à définir le nombre d'enfants quand on voit l'état de l'oreille de la maman.
Alors, quand je vois l'oreille de Fatima, je me dis qu'elle a bien 2 ou 3 enfants. Tu peux lui demander combien d'enfants elle a ?
Voilà. Minouta l'ouadar ma Fatima. Elle a 3 enfants.
3 enfants. On les entend derrière, ils courent, ils jouent. Vont-ils à l'école ? Est-ce qu'il y a une école dans le village ?
Ils vont à l'école. À côté, qui n'est pas loin, ils vont à l'école. Tous les 3. Elle prépare le petit déjeuner pour les enfants. Elle les prépare à l'école et les emmène à l'école. Elle les emmène, elle les rapproche un petit peu de l'école. Elle fait demi-tour. Elle prépare le repas de midi parce qu'elle fait le pain elle-même, bien sûr. Il faut le faire, le levain et tout. Et une fois préparé, les enfants rentrent vers le coup de midi. Midi et demi, ils sont à la maison. Elle les fait manger. Et puis après, à 2h30, dès qu'ils partent, elle reprend les tâches ménagères l'après-midi. Tout ce qui est ménage, repas du soir, la vache, l'herbe pour la vache. Vers le coup de 5h, elle traite la vache, bien sûr. Et elles font le petit lait aussi. Elles font le lait, le petit lait, le beurre. Donc tout ça, c'est la vache. Et puis le soir, il y a le repas du soir. Et puis, on dit, c'est vrai que la vie est rude ici. Il fait très froid, mais il y a une chaleur humaine qui est là. Donc quand ils sont les 5, hein, puisqu'elle a 3 enfants, elle et le mari, il y a une chaleur humaine, ils ne sentent pas le froid. Quand ils se mettent autour d'un repas, à discuter, et c'est le bonheur. Il n'y a qu'à Fatima.
Et toi, tu parles berbère avec, évidemment, on ne parle pas arabe ici, c'est plus berbère. Tu parles français, tu parles aussi italien, tu parles comme ça, d'une langue à l'autre.
Oui. Il faut du courage, qu'elle dit.
Oui, beaucoup
de courage, c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage. Je dis que les langues, quand on apprend la langue, on apprend la mentalité d'une personne ou d'un pays. Si on ne parle pas la langue, on ne connaît pas. Mais c'est vrai que la langue, ça nous apprend quelque chose.
On voit aussi qu'elle est très accueillante à ton égard. Oui. C'est le fait que tu parles sa langue, que tu sois une femme aussi, j'imagine.
Oui.
Elle ne se laisserait pas ausculter par un homme, comme tu le fais ?
Non, parce qu'on partage des choses intimes aussi. Elles ne peuvent pas tout dire, c'est tabou chez nous. Donc, tout ce qu'elle ne peut pas dire à un homme, elle m'en parle. Et puis, des fois, on rit de tout. Et si je peux, bien sûr, lui donner un conseil là-dessus, médical, je le fais.
Alors, voilà. Tu arrives tout doucement à l'âge de la pension. Pourquoi est-ce que tu viens encore travailler dans ces villages ?
Je suis pensionnée. Je ne suis pas arrivée, je suis pensionnée, mais je continue quand même. Ça fait partie de mon bonheur. J'aime bien donner, j'aime bien partager, j'aime bien... Tant que je peux quand même aider quelqu'un, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est le plus important dans ma vie, en fait. Ça me donne du bonheur. Et tant que ça me donne du bonheur, je vais chercher toujours à m'approcher de quelqu'un, même psychologique, même un soutien psychologique, ça me fait du bien. À Fatim. Son mari n'est pas encore rentré. Il est parti au travail. Il aide quelqu'un pour ramasser du sable sur la route. Il est dans la maçonnerie. Il va rentrer le soir.
Eh bien, je remercie beaucoup Fatima. Choukran.
Choukran. Allah yakhlilek walidatk, Allah yahfidhak, wa yakhlilek zmanek.
Tofa ma tskarem hayan.
ماني تردو سبع دميت سول
أنا أخوي استاليا من أدول
تا فرنسي ستول
أيوة تلن يسيش الحين دا كمبي
ياك صافي
ساكري فاطمة
يلا واخا
Petit clin d'œil de Mousta qui chante Scheherazade sur son dernier album. Allez, on poursuit notre trek sur le toit du Maroc, l'Atlas, avec ses sommets de plus de 4000, dont le célèbre Toubkal à 4167 mètres d'altitude. Habib m'emmène dans le parc national. Tout autour, la biodiversité y est exceptionnelle.
Donc on est au pied du Toubkal. Le parc fait à peu près 40 000 hectares. Il a été fondé en 1942. Donc c'est une réserve naturelle pour une grande biodiversité. Il y a pas mal d'animaux, de rapaces. Commençons par le plus gros. On a les mouflons qui sont protégés, qui ont été réintroduits, qui sont surtout autour du Toubkal, vers le Tazarar, donc dans les hauteurs, hein, on ne les voit jamais. Ouais.
Au-delà de 3000 alors.
Au-delà de 3000, exact. Ouais.
Ici, nous sommes
à... On est à 2000 mètres d'altitude.
D'accord.
Voilà, ouais. Donc il y a pas mal de rapaces, tout ce qui est gypaète barbu, aigle royal, faucon, pèlerin, cresserelle. Il y a des perdrix, des lièvres, écureuils. Voilà, ça c'est un petit peu la faune locale. Ouais.
On va profiter de cet endroit, de ce beau plateau, pour parler aussi de tes autres voyages dans le Maroc, entre autres le désert. C'est un endroit où tu aimes aller faire du trekking, marcher, découvrir, chasser aussi.
Exact. Ouais. J'ai découvert le désert il y a 4 ans à peu près. Donc depuis tout jeune, j'ai toujours fait de la montagne, de la randonnée, des traversées, des choses comme ça. Et depuis 4 ans, j'ai découvert la partie désert du Maroc. C'est complètement différent, c'est un autre charme. Et c'est un endroit qui m'attire beaucoup et que j'explore depuis quelques années. Ouais.
Qu'est-ce que tu chasses dans le désert ?
J'adore ramasser des silex, des pointes de flèches, des météorites, des fossiles. C'est vraiment magique. Le désert, on trouve plein de choses en marchant. Ouais.
Donc tu es chasseur de météorites ?
Exact. Ouais. Je me suis converti depuis 2-3 ans. J'adore ça. Ouais.
C'est du no-kill alors, il n'y a pas de problème.
Exact.
Ouais.
Okay, Par contre, il faut beaucoup d'heures d'exploration pour en trouver. Hein. C'est très rare. Hein. Ça veut dire qu'en 2-3 ans, j'en ai trouvé une petite dizaine.
C'est vers le Sahara occidental, le sud ?
Pas trop le sud, mais plutôt frontière algérienne. Donc ouais. Toute la partie est du Maroc. Donc en partant de Merzouga et en descendant vers le sud, donc vers Zagora, Foumsguit, Tissine, Tata. Toute cette partie, c'est la partie que j'explore et où je vais chasser mes météorites depuis quelques années. Ouais.
D'autres endroits du monde où tu aimes aller randonner ?
Pour l'instant, j'ai fait la traversée du Zanskar, donc dans le nord de l'Inde, avec une partie du Cachemire vers Srinagar. Et c'était donc en 2016 et 2017, j'ai fait la Mongolie. Ouais. Donc la partie nord de la Mongolie, c'est le lac Kuvskul, c'est le petit frère du Baïkal. Donc pareil, là cette fois, c'était avec un guide, un cheval. En Inde, c'était plutôt backpacker, donc avec le sac à dos, traversé en solo. Ouais.
Et quand tu reviens ici, après avoir vu tout ça au bout du monde, tu es toujours émerveillé par ton Toubkal ?
Bien sûr, ouais. C'est bien sûr là où j'ai grandi, donc j'adorerais toujours. Mais c'est vrai que j'essaie de découvrir des endroits assez sauvages, c'est ce qui m'attire. C'est des destinations assez sauvages, assez rudes. Voilà, j'essaie de découvrir des endroits encore plus rudes que ce que je connais dans l'Atlas. Ouais.
Ça fait du bien de se faire un peu de mal ?
Oui, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Avoir plein de sable dans les oreilles, des ampoules. C'est ce que j'aime ouais, dans les randonnées que je fais. Ouais.
T'es pas maso quand même.
Non, mais ça fait partie de l'expérience, de l'aventure. Quoi.
Et des rêves encore ?
Oui, j'aimerais bien faire la Patagonie. Ça me plairait bien, je pense, dans quelques années, l'année prochaine ou avant que je sois trop vieux. Quoi.
On va te mettre en contact avec Alain Hubert, direction Pôle Sud, l'Antarctique.
D'accord, ouais, ça c'est le côté extrême, c'est le rêve ultime. Quoi. Ça, si j'arrive à le faire un jour, ce serait un accomplissement. Quoi. Voilà, ouais. À faire avant de mourir, quoi. C'est ça.
Bon, t'as encore un demi-siècle devant toi.
Oui, c'est pas trop, mais ouais. Faut pas trop traîner non plus. Ouais. Voilà, ouais.
Et en attendant cette expédition vers la station Princesse Elisabeth, une autre destination incontournable pour les chasseurs de météorites et les poussières d'étoiles, c'est l'observatoire d'Oukaïmeden. Nous y sommes accueillis par le directeur Zouhair Ben Kadoum.
Je suis Ben Khaldoun Zouhair, enseignant-chercheur à l'université Qadir Iyad et directeur de l'observatoire universitaire Qadir Iyad, qui porte le même nom, plus connu à l'international, par Oukaïmeden Observatory, tout simplement. C'est un projet que nous avons construit dès le début, de la fin des années 80, 1986 plus particulièrement, en installant une expérience solaire pour étudier la sismologie du Soleil. Et c'est une expérience qui, en fait, avait besoin d'un réseau autour du globe pour pouvoir observer le soleil 24 heures sur 24. Et donc, il y en avait une à Oukaïmeden, évidemment, une aux États-Unis, à Stanford, une en Australie, en Ouzbékistan aussi. Et donc, il y avait comme ça 5-6 stations autour du globe. Et cette expérience a fonctionné pendant 11 ans parce qu'on voulait faire le cycle solaire en entier. Et autour de cette expérience, nous avons voulu réaliser le projet de création d'un observatoire astronomique au Maroc. D'abord en faisant une étude de qualification du site astronomique. Quand je dis étude sérieuse, et sérieux chez les scientifiques, ça veut dire publier les résultats de l'étude. Et donc suite à ces publications qui ont montré que les paramètres astroclimatiques sont bons, en particulier le seeing, il y a un excellent seeing ici à l'observatoire, la coopération internationale a suivi. Et donc on a commencé à avoir de la demande de la part d'installations de télescopes. Et c'est comme ça qu'entre autres, Trappist est venu renforcer les coupoles qu'on avait déjà à l'observatoire.
Oui, parce que c'est une station internationale. Il y a des télescopes du monde entier, dont ce télescope belge.
Dès son installation, nous avons pu participer à la découverte du fameux système Trappist 1 avec les 7 exoplanètes. Ça fait rêver beaucoup de monde maintenant. Vous savez que le futur James Webb Space Telescope a programmé d'observer ce système déjà. Donc oui, ça fait rêver les astronomes, c'est très intéressant comme découverte, mais aussi le nom, avec toute l'historique qu'il y a derrière. Et donc oui, ça ferait rêver.
Alors c'est marrant parce qu'on voit le télescope Trappist et on observe aussi au loin les mosquées, les deux en parfaite harmonie, il n'y a
ben
pas
oui,
de problème.
Il n'y a aucun problème.
Le Trappist au pays des mosquées.
Vous êtes dans le pays de la tolérance, vous le savez déjà, on a déjà dû vous raconter cela. Et donc il y a une cohabitation parfaite avec Trappist et avec le bon thé... La bonté à la menthe, ça se marie très bien.
Un grand merci Zouer Ben Caldo, mais bonne continuation à vous.
Merci à vous et vous êtes les bienvenus ici.
On continue la dégustation et la visite de l'observatoire après la pause. Ne quittez pas.
Les Belges du bout du monde,
9h-10h sur la première,
avec Adrien Jouvenot.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent au Maroc pour les Belges du bout du monde. C'est un peu 2021, Odyssée de l'espace ce matin. La tête dans les étoiles entre l'auberge Zarathoustra, hein, ainsi parlait Zarathoustra, et cette musique du film. Et puis l'observatoire d'Oukaïm Eden perché dans le Haut Atlas.
Les Belges du bout du monde. Chaque dimanche de 9h à 10h, avec Adrien Jouvenot.
C'est pas le temps, passe-moi tes vibrations. Moi j'ai pas vu passer l'avion. C'était comme un tout gros champignon.
Tout petit la planète, la nôtre est quand même cinquième, hein, plus grande du système solaire, la Terre juste derrière Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et devant Vénus, Mars et Mercure, des planètes que l'on scrute à l'observatoire d'Oukaïm Eden où nous avons rendez-vous avec l'astrophysicien Emmanuel Jehin.
Bonjour Adrien, bonjour les Belges du bout du monde. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à l'observatoire de Oukaïm Eden, hein, ici au Maroc. Nous avons ici un télescope de l'Université de Liège et nous sommes venus avec des étudiants liégeois et marocains pour une mission scientifique et technique dans ce lieu assez extraordinaire où nous avons installé ce télescope il y a maintenant 5 ans.
Alors un lieu qui n'a pas été choisi par hasard. On est, je ne vais pas dire au milieu de nulle part, mais au sommet d'une montagne avec des vues... complètement fabuleuse et l'absence de pollution lumineuse. C'est pour ça que vous avez choisi cet endroit.
Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver dans l'hémisphère nord un bon site d'observation du ciel, tellement la pollution lumineuse s'est répandue partout dans l'hémisphère nord. Et Oukaïm Eden, on l'a découvert il y a quelques années et c'est vraiment un site merveilleux. Ici, cette région, elle va être classée prochainement comme parc naturel pour le ciel noir, donc une réserve de ciel noir où on peut encore voir les étoiles sans aucune pollution lumineuse. Et pour les astronomes, évidemment, c'est absolument vital pour pouvoir observer les astres les plus lointains et faire des observations de qualité.
Un site protégé, membre du Dark Sky Association, ça fait rêver aussi.
Oui, tout à fait, parce que tout le monde cherche ces endroits qui deviennent de plus en plus rares sur notre planète, malheureusement, et qui sont très importants pour pouvoir continuer à faire de l'astronomie, mais aussi profiter de ce spectacle extraordinaire qu'est le ciel étoilé, notamment avec la Voie lactée, qui, par exemple, faut le savoir, a quasi complètement disparu depuis la Belgique. Il faut vraiment aller dans des sites comme le nord du Chili, Tenerife, les sommets des montagnes Hawaï, ou ici, à Lukaimden, dans l'Atlas, pour pouvoir profiter de la majestuosité du ciel nocturne.
Alors, Lukaimden, c'est un parc de télescopes, il y en a du monde entier, et cocorico, on est au pied du télescope TRAPPIST. Pourquoi TRAPPIST ?
Alors, TRAPPIST, c'est un acronyme qu'on a choisi pour à la fois bien montrer aux gens, aux scientifiques du monde entier que c'est un programme belge, en fait. Ce sont des télescopes, un qui est installé dans le nord du Chili, dans le désert d'Atacama, un qui est installé ici à l'observatoire de Lukaimden. C'est un acronyme un petit peu compliqué, mais qui tout de suite fait penser que c'est un projet belge. Ce télescope, en fait, a double objectif. C'est à la fois l'étude des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, et l'étude des petits corps du système solaire que sont les astéroïdes et les comètes qui voyagent autour du Soleil, qui parfois passent très près de la Terre. Et donc, avec nos télescopes, nous observons ces petits corps.
Vous en avez découvert ?
On en a découvert. En fait, on en a découvert un qui aujourd'hui porte même le nom de TRAPPIST, en souvenir de notre observatoire. Cet astéroïde est situé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il fait à peu près 700 mètres de diamètre.
Il s'appelle TRAPPIST-1, parce que peut-être qu'il y en aura d'autres.
Celui-là s'appelle TRAPPIST. Oui. TRAPPIST-1, c'est l'étoile autour de laquelle on a découvert cette exoplanète. C'est un système tout à fait extraordinaire, unique en son genre, qui tourne autour d'une toute petite étoile naine rouge, 10 fois plus petite que notre Soleil. Cette planète de type terrestre, dont 3 d'entre elles sont en fait situées dans ce qu'on appelle la zone habitable. C'est l'endroit où on pourrait avoir de l'eau liquide si ces planètes ont une atmosphère. Donc, les astronomes du monde entier et même le public sont extrêmement intéressés par ce système qu'on a découvert il y a quelques années grâce à nos télescopes TRAPPIST et qui pourrait, l'année prochaine déjà, être identifié comme ayant des atmosphères et pourquoi pas peut-être de la vie sur ces planètes.
Univers luni. Univers luni.
Emmanuel Jean, pour travailler dans cet observatoire, il faut pouvoir résister à tous les climats.
Alors oui, c'est vrai, c'est les grands écarts parfois entre les différentes conditions météorologiques. Et en fait, le temps change vraiment très vite en début de soirée avec les changements de température. On peut avoir un petit peu des nuages qui couvrent l'observatoire et puis ça se dégage au moment du coucher de soleil et c'est merveilleux, oui.
On a commencé l'émission avec le soleil et on a eu pendant la pause une averse de neige.
Ah oui, et on attend même beaucoup de neige dans les jours qui viennent, dans les 2 prochains jours. Mais là, ça se redégage pour la nuit qui arrive.
Alors ici, c'est TRAPPIST Nord. Nous sommes au Maroc. Tu as travaillé aussi dans un observatoire au Chili. Et je crois que c'est là qu'est née un petit peu cette idée de TRAPPIST.
Alors c'est vrai que pouvoir travailler avec des télescopes et avoir ses propres télescopes, c'est quelque chose d'unique. Et avec mon collègue Michael Gillon, quand je suis revenu du Chili, on avait chacun l'idée de construire nos propres télescopes pour pouvoir faire nos propres observations. Et c'est de là qu'est né ce projet un peu fou des télescopes TRAPPIST qui aujourd'hui fonctionnent très bien et ont même donné naissance à d'autres télescopes, les télescopes Spéculoos, qui sont installés également dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud.
Typiquement belge encore. Alors tu parlais de naissance, naissance de télescopes, mais aussi naissance de tes propres enfants biologiques. Ils sont nés au Chili.
Et alors, je suis parti au Chili pour 2 ans. Au total, je suis resté 7 ans là-bas. Et mes 2 filles sont nées à Santiago du Chili. J'ai bien failli y rester toute ma vie. Puis à un moment, je me suis dit quand même l'attraction de la famille du pays. Et donc, on est revenu finalement en Belgique. Oui.
Donc, tu es aussi un Belge du bout du monde.
Je suis un Belge du bout du monde, c'est vrai. J'adore retourner sur ces endroits dans lesquels j'ai vécu, notamment le Chili. J'y retourne tant que c'est possible, et ici également, maintenant au Maroc depuis quelques années.
Alors, dans cet observatoire, Doukaïm Edem, est-ce que tu peux voir, par exemple, des étoiles que tu n'observerais pas depuis Spa, où tu as ton camp de base?
Oui, c'est vrai. À Spa, avec le groupe d'astronomie, on se réunit pour regarder les étoiles avec les amateurs et le grand public. Puis ici, quand on vient, on est plus au sud, hein, donc que, bien sûr que la Belgique, on peut voir des étoiles de l'hémisphère sud qu'on ne voit pas depuis la Belgique. Et donc ça aussi, c'est un des grands plaisirs de venir ici, parce que le ciel de l'hémisphère sud est magnifique, en fait. Et donc, on peut voir derrière les montagnes, ici au sud, se lever des étoiles absolument impossibles à voir de la Belgique.
Un climat très sec, des nuits très, très étoilées. Tu vois la Voie lactée aussi?
Alors oui, la Voie lactée depuis Doukaïm Edem, c'est vraiment merveilleux à observer, puisque malheureusement, depuis la Belgique, on n'arrive plus à voir la Voie lactée, pratiquement. Hein. C'est très, très difficile à cause de la pollution lumineuse. Ici, nous sommes loin de toute pollution lumineuse et on peut vraiment profiter de ce spectacle merveilleux.
Alors, Trappiste, c'est aussi une affaire belgo-marocaine, un peu comme le Zarathoustra. C'est vrai, il y a un peu des deux, il y a un peu de Maroc et un peu de Belgique.
Oui, alors il fallait qu'on trouve un site dans l'hémisphère nord pour installer notre deuxième télescope pour pouvoir couvrir tout le ciel entier. Et donc, oui, le nom Trappiste, c'est vrai que c'est lié, bien sûr, avec mon collègue Michael. On aime bien les bonnes bières belges, les meilleures bières du monde. Et donc, c'est de là qu'il y a ce nom qui est très reconnaissable dans la communauté scientifique. Puis on fait partager aussi notre, bien sûr, nos savoirs belges et quand on se déplace dans les pays, on amène toujours avec nous. Ici, c'est l'anniversaire de Mourad. On lui a ramené des spéculoos et du sirop de Liège.
Ah, bien, bon anniversaire, Mourad. Alors, Mourad, toi, tu es un des astronomes qui travaille ici, astrophysicien. Tu es doctorant à l'université Kadi Ayad à Marrakech, mais aussi à l'université de Liège.
Oui, je suis doctorant en co-tutelle entre les deux établissements, Université de Liège et l'Université Kadir Ayad. C'est une collaboration dans le cadre du projet Trappiste. Et je travaille sur la détection et la caractérisation des exoplanètes avec ces télescopes, principalement le télescope Trappiste Nord installé ici à Doukaïm Edem.
Qu'est-ce que tu retiens de ton séjour en Belgique, Mourad?
J'ai beaucoup aimé la sympathie des gens là-bas. Beaucoup de choses.
Une chaleur humaine presque marocaine?
Oui, je peux dire que c'est à peu près comme les Marocains. Il y a aussi d'autres choses, comme la bière trappiste, bien sûr.
on y revient. Alors, tes étudiants, visiblement, font du chemin. Tes étudiants marocains aussi, on les retrouve un peu partout dans le monde, Emmanuel.
Youssef est aux États-Unis pour continuer le travail sur les comètes qu'il a entrepris avec moi il y a déjà plus de 6 ans. Et Khalid est de retour à Liège. Pour lui, c'est le rêve, en fait, avec en fait un partage de ce post-doc entre Liège et Tenerife, où il y a un beau télescope qui l'attend pour travailler. Donc pour lui, c'est vraiment un aboutissement génial. C'est aussi toutes ces idées qui sont importantes à mélanger entre nous, avoir de nouvelles idées, et puis que nos équipes puissent grandir, évidemment, pour continuer à faire de nouvelles découvertes.
Einstein, que vous avez beaucoup étudié aussi, sa théorie de la relativité, disait que l'imagination est au moins aussi importante, parfois plus importante que le savoir. Pour vous, c'est important l'imagination aussi?
Alors oui, absolument. Alors l'imagination est nécessaire
à la recherche.
À la recherche. Le problème, c'est qu'on apprend pendant des années des choses que les gens ont découvertes avant nous. On apprend. Et puis, pour quand même aller plus loin, il va falloir un moment pouvoir sortir des sentiers battus pour justement aller regarder quelque part où personne n'avait regardé ou imaginer des choses que personne n'avait imaginées. Et donc, c'est ça qui fait avancer la recherche. Aussi, parfois, c'est un peu par hasard, la chance. Mais la chance, souvent, elle est provoquée parce que justement, on fait des choses peut-être un petit peu différentes que les autres. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement important. La découverte de l'univers va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer, généralement. Et c'est ça qui est souvent très surprenant. On imagine des choses, mais après, on découvre des choses encore plus incroyables que ce qu'on aurait pu imaginer. Comme le système de planètes Trappiste A, 7 planètes de type terrestre, dont 3 dans la zone habitable, autour d'une toute petite étoile très différente de notre Soleil, 10 fois plus petite. Plus froide, et en fait peu de gens avaient imaginé qu'autour de ces étoiles il pourrait y avoir même des planètes.
Avec le chiffre magique 7, encore une fois.
Avec le chiffre magique 7, et il y avait 7 bières trappistes à l'époque où on l'a découverte, donc c'était aussi très, très amusant.
On attendra ce midi, hein, évidemment, pour les savourer à l'apéro, ces bières trappistes. Là tout de suite, attention, décollage immédiat avec David Bowie sur la première.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Space Oddity, c'était David Bowie et son alter ego Major Tom. Cette chanson date de l'été 1969, quand l'homme faisait son premier pas sur la Lune. 52 ans plus tard, nous partons ce matin à la découverte des exoplanètes avec l'astrophysicien Emmanuel Jehin. Nous sommes avec lui à l'observatoire d'Oukaïmeden, dans le Haut Atlas marocain. Des images sublimes à découvrir cet après-midi à 14h10 sur la Une et un témoignage étonnant aussi à écouter ce matin en avant-première.
Les Belges du bout du monde.
Mon terroir, c'est les galaxies. La vie est courte, compagnon. L'ici-bas n'est pas notre vraie maison. Notre corps est outil et véhicule. Sitôt qu'il sera à la ferraille, ne restera vivant que notre esprit. En attendant, mortel, mon frère, soigne ton corps, afin qu'il te conduise au plus loin qu'il est impossible, au bout de cette galaxie que tu es, sans le savoir, ô ignare, mortellement ignorant du sens du courant de ton fleuve intérieur.
Julius Bocarn chantait « Mon terroir, ce sont les galaxies ». Est-ce que Emmanuel Jehin, vous reconnaissez un peu là-dedans, dans cette citation de Julius?
Alors, en effet, les galaxies, ce sont ce qu'on appelle les univers-îles, en fait. L'univers, il est quasi vide, mais par endroit, vous avez ces univers-îles que sont ces rassemblements de centaines de milliards d'étoiles qui peuplent l'univers. Et dans ces galaxies se trouvent les étoiles autour desquelles se trouvent les planètes, et nous, la Terre, par exemple. Et aujourd'hui, les astronomes ont décompté environ, alors le chiffre est hallucinant, il est astronomique, c'est 2000 milliards de galaxies, au dernier comptage. Et chacune de ces galaxies contient des centaines de milliards d'étoiles. Toutes ces étoiles, c'est des chances en plus pour avoir des planètes autour et probablement peut-être de la vie également. Donc, en effet, je suis tout à fait d'accord avec cette citation. L'univers est immense, il est peuplé de ces galaxies qui elles-mêmes sont les endroits où se forment les étoiles et les planètes et la vie.
Autant de galaxies que de grains de sable ?
Plus de galaxies dans l'univers que de grains de sable, et chacune de ces galaxies sont formées de centaines de milliards d'étoiles.
On est peu de choses finalement.
Alors on est peu de choses, en fait on est même ce qu'on appelle des poussières d'étoiles. Nous, notre corps, on est formé d'éléments qui ont été synthétisés à l'intérieur d'étoiles massives, qui ont explosé, qui ont distribué dans la galaxie ces nouveaux atomes, qui finalement ont fini par reformer la planète Terre, et puis notamment les êtres humains et nous ici qui parlons. Et c'est vrai qu'on est très peu de choses, il faut se rendre compte, il faut pouvoir relativiser les choses. C'est vrai, quand on est en dessous d'un ciel extraordinaire comme ici, alors, l'esprit vagabonde et on se rend compte finalement on est peu de choses, mais on est quand même très important parce que on comprend l'univers, on essaie de comprendre d'où on vient et ça c'est une démarche qui est quand même assez intéressante, je dirais.
Ah ben vous êtes fascinant, merci infiniment et puis bonne continuation dans vos recherches avec vos étudiants parce que vous préparez la relève.
Ah oui, alors tout à fait, donc on a toujours besoin de passer bien sûr les informations et de pouvoir continuer et aller plus loin. Et puis c'est les jeunes, on dit souvent qu'un chercheur à 40 ans, son cerveau il commence à avoir quelques problèmes et que c'est vraiment quand on est jeune qu'on ose aller au-delà avec de nouvelles idées. Bien sûr, on a plein d'idées, mais c'est vrai que les jeunes ramènent bien sûr de la fraîcheur dans toutes ces idées.
Comme vous, Anne Pollard, vous n'avez pas encore le cerveau ramolli, pas encore 40 ans.
Non, tout va bien.
Jeune de la Belge au lycée, vous allez nous parler d'autres jeunes qui jettent des ponts entre la Belgique et le Maroc.
Tout à fait, c'est l'association des jeunes marocains. Alors, c'est une association qui date des années 70, mais qui aujourd'hui continue ses activités, pas seulement avec des jeunes marocains, vous allez l'entendre. Cette association permet réellement de rencontrer et de discuter d'autres jeunes d'origines différentes. Philippe Claudel en est le coordinateur.
On a une manière de travailler qui est assez simple. En fait, c'est que nos membres nous expriment des besoins, on facilite l'expression de ces besoins de ces membres et on tente d'y apporter des solutions concrètes, des réponses concrètes. Donc, les besoins sont de différents ordres. Il y a tout un volet qui concerne le soutien, l'accompagnement à la scolarité, que ce soit pour des enfants de primaire, des jeunes de secondaire ou des étudiants du supérieur. En parallèle, on a eu à cœur de développer toute une série d'activités autour de l'expression, que ce soit des enfants ou l'expression des jeunes. Donc pour les jeunes, on a développé des ateliers d'initiation à la langue des signes et de sensibilisation au handicap, des ateliers d'écriture, des ateliers d'éloquence, multimédia et théâtre d'impro. Et pour les enfants, des ateliers de découverte, des ateliers nature ou des découvertes de pratiques sportives, comme le taekwondo ou la natation, le football en salle. On essaie de travailler dans la continuité, de pouvoir offrir aux enfants qui viennent un parcours et un accompagnement jusque leur arrivée dans l'âge adulte. Et donc, à titre d'exemple, les jeunes qui, mettons, sont en fin de secondaire peuvent aider des enfants de primaire dans leur scolarité, une aide à la réalisation des devoirs, à l'apprentissage des leçons, ou participer à l'animation et à l'encadrement d'ateliers, comme des activités sportives, par exemple, ou alors des activités artistiques. La même logique se décale encore après, où des jeunes qui fréquentent l'enseignement supérieur peuvent, à leur tour, aider et s'insérer dans des animations qui sont données à des jeunes de secondaire. Du fait de l'ancienneté de l'association, on a, mettons, des personnes qui pouvaient être membres de l'association à la fin du siècle dernier, qui désormais sont devenus mères ou sont devenus pères et qui, à leur tour, inscrivent leurs enfants de manière actuelle. On travaille déjà par rapport aux réalités du quartier. Dans le quartier, il y a différentes influences culturelles, pour employer ces mots-là, qui peuvent exister, du fait de l'origine des personnes. Ne fût-ce qu'au niveau des personnes issues de l'immigration marocaine, il y a deux langues principales qui sont différentes, l'arabe dialectal et le tamazight. Parmi nos membres, on a des personnes qui sont turcophones ou albanophones ou qui viennent d'Afrique subsaharienne. Ça permet, au sein de l'association, de multiplier les échanges et les points de vue. Ça peut être de donner lieu à des discussions pour faire découvrir d'autres horizons aussi, de leur famille, de leur culture, de traditions culinaires, de la langue, etc., etc. On a remarqué que les jeunes peuvent souffrir et en ces temps de pandémie, ils souffrent d'autant plus. Donc depuis 2017, on a mis en place ce qu'on appelle la parole en confiance, qui consiste en des consultations psychologiques qui sont dispensées par des psychologues, cliniciennes et cliniciens au profit d'enfants, de jeunes et le cas échéant aussi au bénéfice des parents.
Voilà l'association des jeunes marocains, pensée par et pour des jeunes marocains, mais pas seulement, ici à Bruxelles, à Molenbeek.
Merci Anne Pollard. Alors on va terminer, nous, cette émission Les Belges du bout du monde, comme on l'a commencé, avec Zora et Frédéric dans leur auberge Zarathoustra, située, je vous le rappelle, en plein cœur de la réserve nationale du Toubkal, à l'entrée du pays berbère. C'est une auberge entièrement bâtie en pierre du pays. Elle a été rénovée par Frédéric. Alors Frédéric, là-bas, on le surnomme l'homme qui murmure à l'oreille de sa chèvre. Vous allez comprendre pourquoi.
Elle m'accompagne partout, en voiture, dans nos balades avec les touristes. Elle nous suit partout. C'est vraiment comme un chien. C'est la même chose.
Comment s'appelle-t-elle ?
Elle s'appelle Titrit.
Je vais demander à Zora, ça veut dire quoi Titrit ?
Titrit, ça veut dire étoile.
Ah ben justement.
Au berbère.
Ah ben voilà. Oui. Une bonne étoile que la vôtre ici, oui. Aux Zarathoustra.
Oui, on l'aime bien. Et moi, ce que j'admire, c'est cette chèvre, quand il se promène avec, au moment où il passe au milieu d'un troupeau de chèvres, elle les snob, elle passe et elle le suit.
Entre nous, Zora, ouais. Que dit-on de Frédéric quand il se balade dans le bled avec une chèvre en laisse ?
On dit qu'il est fou. Et que voilà un Européen qui est fou, qui apprivoise une chèvre toute seule et qui se balade avec. Et surtout que ce n'est pas une chèvre pour manger, quoi. C'est sa fifille.
Oui, et ce n'est pas non plus la chèvre de M. Seguin. Voilà. Elle va connaître un meilleur sort.
Voilà,
elle va couler des jours heureux très longtemps.
Elle termine mal, hein, la chèvre de M. Seguin.
Dévorée par le loup.
Voilà.
La tienne, par contre, elle peut sauver des vies.
Exactement, oui. Donc, on a eu une touriste que j'ai bien indiqué le chemin du trek. Un peu comme la chèvre, elle en a fait à sa tête. Et elle est partie comme ça, en plein milieu d'une montagne qui n'était pas accessible. Avec l'érosion, elle risquait sa vie. Et alors, à un moment donné, j'étais avec ma chèvre, on ne la trouvait pas. Et elle a commencé, ma chèvre, à pointer un endroit. On a pris nos jumelles et qui voit-on ? Cette personne. J'ai dû aller très vite avec la chèvre pour la secourir et la faire descendre. Sinon, elle risquait vraiment l'accident.
Bravo Titrit.
Bravo Titrit.
Alors Zora, on va tout doucement terminer cette émission. Qu'est-ce que tu as envie de dire peut-être pour conclure ?
Ben écoute, les Belges sont les bienvenus chez nous, que j'admire d'ailleurs par leur politesse, gentillesse. Et c'est pas récent, hein. On a toujours apprécié les patients à la clinique belge. C'était des patients sages et qui se laissent faire.
C'est l'infirmière qui parle, voilà. Très bien. On peut aussi un petit mot peut-être sur la santé. Tu es infirmière, le Covid ici en montagne, il est quasiment absent. On croise les doigts pourvu que ça dure.
Oui, j'espère que ça va durer parce que peut-être, je pense qu'il y a une histoire de distance. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'affoulement, il n'y a pas... Les gens, les habitants sont un petit peu isolés. Donc, ils ne partent pas en ville, ils ne voyagent pas beaucoup.
Le virus ne circule pas.
Donc il circule moins dans la région. Et peut-être l'altitude, le climat, l'air, qui font encore un petit quelque chose. Et puis voilà, mais j'espère que ça va durer.
Inch'Allah.
Inch'Allah. Inch'Allah.
On souhaite aussi bonne continuation à Frédéric Ramelot. Le secret, Frédéric, de ta forme, c'est quoi ?
Le secret de ma forme, tout simplement, j'ai eu un accident à l'âge de 10 ans avec un vélo et une voiture qui venait en face de moi. J'ai complètement été écrabouillé, je vais dire ça, un mot bien de chez nous. Et il m'a fallu 2 ans... à l'hôpital d'abord, et puis de la rééducation. Et alors j'ai eu envie de devenir performant, de profiter de la vie, de chaque moment. J'ai fait des marathons et je vais toujours au bout des choses et me dépasser. C'est vraiment le but. Et voilà, Inch'Allah.
Un bel exemple de résilience. Bravo, bravo. On peut inviter aussi nos auditeurs qui souhaiteraient passer un séjour ici à aller sur la plateforme belge du bout du monde, Expérience. Vous aurez tous les renseignements pour vivre ce qu'on a vécu dans cette émission, Les Belges du bout du monde, réalisée par Paul Michel avec l'aide de WBI, Wallonie-Bruxelles International. La semaine prochaine, nous serons en Colombie, chez Sandra Bezudo, qui a été secrétaire d'État à l'environnement. C'est une passionnée de nature. On plongera avec elle parmi les dauphins. Vous verrez que ce sera absolument superbe. Dans un instant, sur la première, juste après le journal de 10h, Pasticho avec Nicolas Blanmont.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Podcast.